Il y avait un frère qui jusqu'alors était resté silencieux, tout occupé, avec grande dévotion, à avaler les bons mets dont l'abbé avait fait recouvrir la table. Il tendait une oreille distraite aux différents propos, en émettant de temps à autre un rire sarcastique à l'adresse du souverain pontife, ou un grognement d'approbation aux interjections d'indignation des commensaux. Pour le reste, il veillait à se nettoyer le menton des jus et des morceaux de viande qu'il laissait tomber de sa bouche édentée mais vorace, et les rares fois qu'il avait adressé la parole à un de ses voisins, ça avait été pour porter au nu quelque délectable gourmandise. Je sus ensuite qu'il s'agissait de messire Jérôme, cet évêque de Caffa, qu'Hubertin, quelques jours auparavant, croyait bel et bien défunt. Et je dois dire que l'idée qu'il était mort depuis 2 ans circula comme une nouvelle vraie à travers toute la chrétienté pendant longtemps, car je l'entendis même par la suite. Et en effet, il mourut peu de mois après notre rencontre, et je persiste à attribuer son décès à la grande rage que la réunion du lendemain lui aurait mise au corps, tellement que j'aurais presque cru le voir éclater sur le champ tant il était frêle de corps et d'humeur bilieuse. Il s'introduisit à ce point-là dans la conversation en parlant la bouche pleine.
« Et puis, vous savez que l'infâme a élaboré une constitution sur les taxae sacrae poenitentiariae où il spécule sur les péchés des religieux pour en soutirer d'autres deniers encore. Si un ecclésiastique commet le péché de la chair avec une nonne, avec une parente ou même avec une femme quelconque, il ne pourra être absous que s'il paie 67 lires d'or et 12 sous. Et s'il commet des bestialités, ce sera plus de 200 lires. Mais s'il ne les a commises qu'avec des enfants ou des animaux, et non pas avec des femmes, l'amende sera réduite de 100 lires. Et une religieuse qui se serait donnée à de nombreux hommes, soit en même temps, soit à des moments différents, en dehors ou en dedans du couvent, et puis veut devenir abbesse, devra payer 131 lires d'or et 15 sous.
« Allons donc, messire Jérôme, protesta Hubertin. Vous savez combien peu j'aime le pape, mais là, je dois le défendre. C'est une calomnie qu'on fait circuler en Avignon. Je n'ai jamais vu cette constitution.
Elle existe, affirma vigoureusement Jérôme. Moi non plus, je ne l'ai pas vue, mais elle existe.
Hubertin hocha la tête et les autres se turent. Je m'aperçus qu'ils étaient habitués à ne point trop prendre au sérieux messire Jérôme que l'autre jour Guillaume avait taxé de sot. Guillaume chercha à relancer la conversation. « En tout cas, vrai ou fausse, cette rumeur nous dit bien quelle est la morale à Avignon. Lors de l'exaltation de Jean, on parlait d'un trésor de 70 000 florins d'or et maintenant certains disent qu'il en a amassé plus de 10 millions.
« C'est vrai, » dit Hubertin. « Michel, Michel, tu ne sais pas les choses honteuses qu'il m'a fallu voir en Avignon. »«
Cherchons à être honnêtes, » dit Michel. « Nous savons que les nôtres aussi ont commis des excès. » J'ai su des franciscains qui attaquaient en armes les couvents dominicains et dénudaient leurs frères ennemis pour leur imposer la pauvreté. C'est pour cela que je n'osais pas m'opposer à Jean au temps des affaires de Provence. Je veux aboutir à un accord avec lui. Je n'humilierai pas son orgueil. Je lui demanderai seulement qu'il n'humilie pas notre humilité. Je ne lui parlerai pas de l'or. Je lui demanderai seulement d'être d'accord avec une saine interprétation des Écritures. Et c'est ce que nous devrons faire demain avec ces légats. En fin de compte, ce sont des hommes de théologie et tous ne seront pas des rapaces comme Jean. Lorsque des hommes sages auront délibéré sur une interprétation scripturaire, lui ne pourra...
Lui ?
Coupa Hubertin.
Mais tu ne connais pas encore ses folies dans le domaine théologique.
Lui veut lier vraiment tout de sa main, dans le ciel et sur la terre. Sur la terre, nous avons vu ce qu'il fait. Quant au ciel, eh bien... Il n'a pas encore exprimé les idées que je te dis, pas publiquement du moins, mais je sais de source sûre qu'il en a touché un mot à ses fidèles. Il est en train d'élaborer certaines propositions folles, sinon perverses, qui changeraient la substance même de la doctrine et ôteraient toute force à notre prédication.
Lesquelles ?
Demandèrent beaucoup d'entre eux.
Demandez à Béranger, lui le sait, c'est lui qui m'en avait parlé.
Hubertin s'était adressé à Béranger Talony, qui avait été dans les années passées un des adversaires les plus décidés du souverain pontife à sa cour même. Venu d'Avignon, il avait depuis 2 jours rejoint le groupe des franciscains et avec eux, il était arrivé à l'abbaye.
« C'est une sombre histoire et presque incroyable, » dit Béranger.
Il semble donc que Jean est en tête de soutenir que les justes ne jouiront de la vision béatifique qu'après le jugement. Depuis longtemps, il réfléchit sur le verset 9 du 6e chapitre de l'Apocalypse, là où on parle de l'ouverture du 5e sceau, où apparaissent sous l'autel ceux qui ont été égorgés pour avoir témoigné de la parole de Dieu et demandent justice. On donne à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu. Signe, en déduisant, qu'ils ne pourront voir Dieu dans son essence avant l'accomplissement du jugement dernier.
Mais à qui a-t-il débité ces sornettes ?
Demanda Michel atterré. Jusqu'à présent, à une poignée d'intimes, mais le bruit s'est répandu. On dit qu'il est en train de préparer une intervention ouverte, pas dans l'immédiat, peut-être dans quelques années. Il consulte ses théologiens. Ricana Jérôme en mastiquant. Non seulement, il semble qu'il veuille aller plus loin et soutenir que l'enfer non plus ne sera pas ouvert avant ce jour, pas même pour les démons.
Seigneur Dieu, aide-nous ! S'exclama Jérôme.
Et que raconterons-nous alors aux pécheurs si nous ne pouvons les menacer d'un enfer qui soit déjà ouvert dès l'instant où ils meurent ?
Nous sommes dans les mains d'un fou, dit Hubertin. Mais je ne comprends pas pourquoi il veut soutenir pareille chose.
Toute la doctrine des indulgences part en fumée, déplora Jérôme. Et même lui ne pourra plus en vendre. Pourquoi un prêtre qui a fait péché de bestialité devrait-il payer tant de lire en or pour éviter un châtiment aussi lointain ?
Pas si lointain que ça, dit avec force Hubertin. Les temps sont proches.
Tu le sais, toi, cher frère, mais les fidèles ne le savent pas. Voilà où nous en sommes ! Cria Jérôme, qui n'avait plus l'air de se délecter en mâchonnant.
Mais pourquoi se met-il dans cet état ? Se demandait Michel de Cézanne.
Je ne crois pas qu'il y ait une raison, dit Guillaume. C'est un acte d'orgueil. Il veut vraiment être celui qui décide pour le ciel et pour la terre. J'étais au fait de ces rumeurs. Guillaume d'Ockham m'en avait écrit. Nous verrons à la fin qui, du pape ou des théologiens, de la voix de l'Église entière, des désirs même du peuple de Dieu, des évêques, l'emportera.
Oh, il pourra plier même les théologiens, dit tristement Michel.
Ce n'est pas dit, répondit Guillaume. Nous vivons en des temps où les savants, est-ce chose divine, n'ont crainte de proclamer que le pape est un hérétique. Les savants, est-ce chose divine, sont à leur façon la voix du peuple chrétien, contre quoi pas même le pape ne pourra désormais aller. Et toi aussi, il faudra que tu t'accordes avec ces théologiens.
Mon maître était vraiment d'une grande acuité d'esprit. Comment faisait-il pour prévoir que Michel soi-même déciderait par la suite de s'appuyer sur les théologiens de l'Empire et sur le peuple pour condamner le pape ? Comment faisait-il pour prévoir que, quand 4 ans plus tard Jean aurait énoncé pour la première fois son incroyable doctrine, il y aurait eu un soulèvement de la part de toute la chrétienté ? Si la vision béatifique était retardée à ce point, comment les défunts auraient-ils pu intercéder pour les vivants ? Et où aurait fini le culte des saints ? C'est justement les minorites qui ouvriraient les hostilités en condamnant le pape, et Guillaume d'Ockham serait en première ligne, sévère et implacable dans ses argumentations. La lutte durerait 3 ans, jusqu'à ce que Jean, arrivé au seuil de la mort, fasse en partie amende honorable. Je l'entendis décrire des années après, tel qu'il se montra dans le consistoire de décembre 1334, plus petit qu'il n'était jamais apparu jusqu'alors, desséché par l'âge, nonagénaire et moribond, et il aurait dit... Le renard, si habile à jouer sur les mots, non seulement pour violer ses propres serments, mais aussi pour renier ses propres obstinations.
Nous reconnaissons et nous croyons que les âmes séparées du corps et complètement purifiées sont au ciel, au paradis avec les anges et avec Jésus-Christ, et qu'elles voient Dieu dans sa divine essence, clairement et face à face.
Et puis, après une pause, personne ne sut jamais si, dû à des difficultés respiratoires ou à la volonté perverse de souligner comme adversative la dernière clause,
« Dans la mesure où l'état et la condition de l'âme séparée le permettent. »
Le lendemain matin, c'était un dimanche, il se fit installer sur une chaise longue au dossier incliné, il agréa de ses cardinaux le baiser de la main et il mourut. Mais de nouveau je divague et je perds le fil de mon récit. C'est qu'aussi, dans le fond, le reste de cette conversation à table n'ajoute pas grand-chose à la compréhension des événements que je raconte. les minorites s'accordèrent sur l'attitude à avoir pour le lendemain. Ils pesèrent un à un leurs adversaires. Ils commentèrent avec préoccupation la nouvelle, donnée par Guillaume, de l'arrivée de Bernard Guy. Et davantage encore, le fait que la présidence de la légation reviendrait à un fléau des hérétiques, le cardinal Bertrand du Poghetto. Deux inquisiteurs, c'était trop. Signe qu'on voulait utiliser contre les minorites l'argument de l'hérésie. « Tant pis, » dit Guillaume, « ce sera nous qui les traiterons d'hérétiques, eux. »«
Non, non, » dit Michel, « procédons avec prudence. Nous ne devons compromettre aucun accord possible. »
« J'ai beau tourner et retourner la question, » dit Guillaume, « tout en ayant œuvré pour la réalisation de cette rencontre, et tu le sais bien, Michel, je ne crois pas que les Avignonnais viennent ici en vue d'un quelconque résultat positif. Jean te veut en Avignon, seul et les mains nues, mais la rencontre aura au moins servi à te le faire comprendre. C'eût été pire si tu y étais allé avant cette expérience. »
Ainsi tu t'es mis en quatre et des mois durant pour réaliser une chose que tu crois inutile, dit Michel avec amertume.
Qui m'avait été demandée et par toi et par l'empereur, dit Guillaume. Et puis enfin, il n'est jamais inutile de mieux connaître ses propres ennemis.
C'est à ce point-là qu'on vint nous prévenir. La deuxième délégation franchissait l'enceinte. Les minorites se levèrent et allèrent à la rencontre des hommes du pape.